Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Fillet 97.9 FM. Vous écoutez Seconde Actu, une émission réalisée par les élèves de seconde de la cité scolaire Paul Scarron. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le studio, masqués comme il se doit, avec trois élèves de seconde B qui seront remplacés, consigne sanitaire oblige, par trois autres de leurs camarades après la pause musicale. Je vais commencer par laisser nos chroniqueurs du jour se présenter. Donc bonjour Anaïs.
Bonjour.
Pas trop intimidée Anaïs ?
Non, ça va.
Non, ça va. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Des mutilations de chevaux.
D'accord. Très bien. Et nous avons aussi Florent.
Bonjour à tous.
Bonjour Florent. Est-ce que tu as déjà fait de la radio ?
Non, absolument pas.
D'accord. Et toi, tu vas nous parler ?
Des nouvelles règles sanitaires au Grand Prix de France de MotoGP.
D'accord. Très bien. Il nous reste finalement Lisa. Alors, c'est une première expérience pour toi ?
Oui, c'est une première.
Et alors, ça t'inquiète ?
Non, pas trop.
Pas spécialement. Bon, tant mieux. Eh bien, c'est parti. Tout de suite, c'est Anaïs qui va ouvrir le bal avec un fait divers mystérieux et inquiétant.
Mystère de l'été, la vague de mutilations de chevaux, parfois mortelles et surtout très choquantes, s'identifie de plus en plus dans toute la France. D'après le Courrier du Sud-Ouest, les tout premiers cas sont recensés fin 2018 dans le Puy-de-Dôme. Deux mutilations sur des équidés à 6 mois d'intervalle et dans le même village. Fin juin 2020, des faits similaires sont dénombrés à travers la France. Début août, alors que les cas deviennent de plus en plus médiatisés, l'accélération se confirme. Saône-et-Loire, Essonne, Jura, Côte d'Armor. Il y a plus de 153 enquêtes qui sont ouvertes partout en France. Les animaux les plus touchés sont principalement des équidés, chevaux, juments, poneys, de toute race et de tout âge. La plupart des équidés mutilés avaient l'oreille droite coupée. Cette vague mortelle est arrivée dans la Sarthe. Un éleveur de Beaumont-Pied-de-Bœuf dans la Sarthe a découvert le lundi 21 septembre une de ses poulinières gravement brûlée. Comme aspergé par des produits chimiques, en dépit de soins intensifs, l'animal est mort durant la nuit. Mercredi 30 septembre, une poulinière sans vie a été aperçue dans un champ dans la commune de Marigné-l'Ayé, en Sarthe. D'après un témoignage d'une habitante de la commune, la jument avait été atrocement mutilée. Cette vague meurtrière provoque une très grande peur chez les éleveurs et les propriétaires qui s'organisent pour faire des rondes. Ils rentrent leurs équidés avant la tombée de la nuit, certains même placent des caméras. Un portrait robot avait été diffusé à la télé et sur tous les réseaux, car un éleveur s'était fait agresser parce qu'il avait été témoin de la mutilation de son cheval. Ce sujet me touche énormément, je fais de l'équitation et je suis moi-même propriétaire d'une jument. Cela m'attriste beaucoup de voir un si bel animal se faire mutiler sans aucune raison. Nous n'en savons pas plus, les enquêtes sont en cours.
D'accord, merci Anaïs. Alors du coup, tu disais que tu fais de l'équitation et que tu as une jument à domicile. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous surveillez particulièrement ? Vous avez des systèmes d'alarme ? Comment vous faites au quotidien ?
Ma mère, elle fait des rondes des fois le soir pour aller voir s'il y a du monde dans le champ et tout ça.
D'accord, donc tout à fait au hasard. Et elle y va toute seule ? Elle n'a pas peur de se faire agresser comme...
Elle y va avec des amis, enfin ça dépend, mais elle y va jamais toute seule.
D'accord, oui, elle a bien intérêt à être prudente quand même.
Oui.
Et c'est étrange quand même ce phénomène qui parcourt toute la France. Est-ce que c'est, selon vous, un acte isolé ? Est-ce que c'est quelque chose qui est organisé entre plusieurs personnes ? Ou est-ce que c'est un espèce de tueur en série qui circule comme ça sur tout le territoire ?
Je pense que c'est un réseau dans toute la France, soit comme une secte ou je sais pas...
Quelqu'un veut intervenir là-dessus ?
Moi, personnellement, je pense que c'est organisé avec... plusieurs personnes à la fois pour pouvoir mutiler un cheval, parce que déjà faut le tenir et ensuite pouvoir faire les choses qu'ils font là qui sont pas très bien.
D'accord. Elisa, tu en penses quoi?
Faut quand même un minimum s'y connaître, parce que on n'approche pas un cheval comme ça, et que ça doit être quand même bien organisé pour ils arrivent à... il y a tellement de rondes de fête pour qu'ils arrivent à passer entre les rondes.
Mais comment ça se fait que ça s'organise comme ça ? Qu'est-ce qui peut motiver des gens comme ça ?
Des défis, peut-être.
Des défis, ouais. De quel type ? Tu parles de défis Facebook ou de ce genre de choses qu'on trouve sur les...
Enfin, il y avait des jeux comme Pokémon Go ou des choses comme ça.
Oui, ah oui, donc tu penses que c'est quelque chose qui serait provoqué par une sorte de désir de quoi ? De montrer...
Peut-être
aux autres qu'on est capable de faire des choses aussi atroces.
On essaye de trouver des hypothèses de ce que ça peut être.
Oui.
Donc on imagine un peu tout et n'importe quoi.
Oui, donc des réseaux sociaux qui seraient derrière tout ça. Mais, enfin, pas les réseaux sociaux, mais les utilisateurs des réseaux sociaux, plus exactement. voilà, qui jette un regard assez critique sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est étonnant. Est-ce que c'est une utilisation normale du réseau social, ça?
Non,
pas du tout. Est-ce qu'il n'est pas utilisé autrement, d'ailleurs? Les gens s'organisent, vous disiez, pour faire des rondes. Est-ce qu'ils n'utilisent pas aussi ce genre de réseau pour...
Si
aussi, d'accord. Bien, ben merci pour cette intervention. Maintenant, c'est à Florent de parler. Et il va nous présenter donc les nouvelles mesures sanitaires qui sont en vigueur pour le Grand Prix Moto du Mans à l'heure du Covid.
En effet. Donc la préfecture sartoise a rendu sa décision le 24 septembre dernier sur le protocole sanitaire proposé pour le Grand Prix de France Moto, qui est prévu pour le week-end du 9 au 11 octobre prochain. Le public pourra venir à la course, mais seulement le jour du Grand Prix, qui est le 11 octobre, avec une jauge de spectateurs limitée à 5000 en tribune. Au niveau des règles sanitaires, et notamment la distanciation physique, la moitié des places dans les tribunes accessibles seront remplies, puisque le protocole sanitaire oblige, un siège sur deux sera occupé, avec un sens de circulation bien défini. La Sarthe étant au premier niveau d'alerte pour la circulation du virus, cette jauge de 5000 spectateurs a pu être accordée. En revanche, si le département devait passer au second niveau d'alerte pour la circulation du virus, la jauge de spectateurs se réduirait à 1000 spectateurs. Toute sortie du circuit sera définitive. Personnellement, je ne serai pas présent cette année au Grand Prix, comparé aux années précédentes, puisque je supportais un coureur qui était Lorenzo. Mais l'année dernière, il a pris sa retraite après un passage d'un an chez Honda Repsol, où ce fut une dernière saison compliquée. Jorge Lorenzo se révéla en 2012 chez Yamaha avec son coéquipier mythique que l'on connaît tous, Valentino Rossi. Son début de carrière débuta en fanfare, notamment avec ses duels mythiques pour la première place avec Marc Marquez. Enfin, Jorge Lorenzo remporta 3 titres de champion du monde de MotoGP.
Merci Florent. Donc tu disais que tu n'assisterais pas cette année au Grand Prix Moto du Mans. Donc c'est un regret pour toi?
Un peu quand même, oui. Parce que j'aimais bien y participer avec l'ambiance, tout ce qui était autour du circuit, et puis aussi pour la course, qui était assez spectaculaire, ça dépendait des années.
D'accord, et toi personnellement, la moto, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup, tu la pratiques ou pas?
Je pratique la moto, en effet. J'ai passé mon BSR, donc j'ai une 50 là. Et puis même avant, quand j'étais plus petit, je faisais de la moto avec mon papa, on allait au Grand Prix et voilà.
D'accord. Et tu envisages peut-être de devenir pilote professionnel ou pas?
Non, quand même pas, c'est plutôt un plaisir personnel.
D'accord, donc un loisir.
Exactement.
Merci Florent. Et maintenant, c'est au tour de Lisa de prendre la parole et je pense que tu vas nous parler d'un sujet qui concerne les lycéens, puisqu'il s'agit d'une agression qui aurait eu lieu quelque part autour de Paris, je crois.
Oui, c'est ça. Donc un lycéen âgé de 16 ans a été attaqué en pleine classe ce mercredi 30 septembre. Cet adolescent a été blessé à coups de couteau. Ce lycéen étudiait au lycée Paul-Éloire de Saint-Denis. Son agresseur présumé, un lycéen âgé de 16 ans, il a été interpellé et mis en garde à vue alors que la victime a été transportée à l'hôpital, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Selon France 2, l'attaque a eu lieu vers 9h. Ces deux lycéens qui étaient scolarisés dans le même établissement mais aussi dans la même classe en première filière technologique. Les motivations de l'auteur présumé des faits sont pour l'instant inconnues. Les policiers de la brigade anticriminalité sont intervenus dans l'établissement pour l'interpeller rapidement. Les enseignants ont cessé les cours depuis ce jour. Selon le rectorat, tandis que la quasi-totalité des élèves de la classe et des assistants d'éducation ont été pris en charge. Les cours ont repris que vendredi 2 octobre. Ce n'est pas la première fois que ce phénomène arrive. En 2018, des centaines d'enseignants et de parents s'étaient rassemblés sur le parvis pour dire stop à toutes ces violences. Mais cela n'avait pas empêché de nouveau d'être commis. En mars 2019, des individus s'étaient introduits dans l'établissement armés de baltes de baseball et de marteaux. Plein d'autres actes ont été commis. Ces événements sont beaucoup trop présents dans nos établissements scolaires. Il faut que cela cesse.
Merci Lisa. Alors pourquoi tu as choisi un sujet comme celui-ci?
Car ce sujet est très marquant.
D'accord.
Et très choquant.
qui sont pourtant ouais, ce sont des phénomènes qui arrivent assez régulièrement, hélas. Est-ce que vous, ici, vous vous sentez en danger, comme ça,
bah, oui.
À Paul Scarron?
Enfin, ça dépend, parce qu'ici, on connaît un peu tout le monde, mais si c'est à Saint-Denis, c'est ça?
À Paris.
À Paris, bah, y a plus de monde, et puis c'est un peu plus la banlieue là-bas. Donc.
Mais ici, aller dans cette, ici à Paul Scarron, vous imaginez voir arriver une bande avec des battes de baseball?
Je pense pas, non.
Non, c'est pas, on n'a jamais vu ça encore.
Déjà, c'est déjà c'est un lycée très familial.
Oui.
Et qu'on est un peu en plein milieu de la campagne, donc déjà on est un peu plus rassuré.
Pour vous, la criminalité, c'est lié à quoi? Enfin, la délinquance comme ceci, c'est lié au milieu urbain, au fait que les gens sont en ville?
Bah plutôt en effet, parce que. En campagne, on n'est pas. Enfin, c'est deux milieux très différents quand même. Dans la région, enfin, dans les régions urbaines, c'est plutôt des. Il y a plutôt des cités, donc là, c'est des délinquants ou pas forcément. Mais il y a plus de délinquants en effet qu'en campagne. Donc, on se sent plus rassurant en campagne qu'en banlieue, par exemple.
Et qu'est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il y a des solutions à ça? Est-ce qu'on pourrait trouver des parades ou des systèmes à mettre en place pour éviter qu'en effet quelqu'un débarque comme ça en plein milieu de la journée de cours et puis commence à taper sur les autres?
Bah, faut en parler. Enfin, faut que les profs, les professeurs, ils en parlent aux élèves et que les parents aussi, faut que. C'est un manque d'éducation aussi, je pense. Mmh. Et du coup, bah.
D'accord.
Et renforcer les contrôles, entre guillemets, à l'entrée et à la sortie du lycée.
D'accord. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut empêcher quelqu'un de mal intentionné d'entrer? Parce qu'on ne voit pas non plus. Ici, on contrôle à l'entrée, hein, y a des petits systèmes, on vérifie, mais bon, si les gens arrivent armés, on ne va pas non plus essayer de s'interposer. D'accord, donc un problème d'éducation, peut-être plus au niveau de la famille et de l'entourage proche de ces jeunes, et puis peut-être de renforcer quelques mesures de sécurité. Bien, donc sur ce sujet, nous arrêtons la première partie de l'émission, c'est maintenant la pause musicale, et nous allons écouter Come and Get Your Love de Redbone. Nous sommes de retour pour l'émission Seconde Actu, présentée par les élèves de Seconde B. Pendant la pause musicale, les intervenants ont changé. Je vais tout de suite les laisser se présenter. Et c'est Clément, en fait, qui va commencer par nous parler de la musique qu'on vient d'entendre, Come and Get Your Love de Rainbow.
Come and Get Your Love est une chanson pop-rock sortie en 1974 du groupe de rock amérindien Redbone. Elle a été écrite par Lolly Vegas et produite par lui et son frère Pat Vegas, qui sont tous deux membres du groupe. Come and Get Your Love, qui signifie « Viens et prends ton amour » en français, est donc une chanson d'amour que je trouve personnellement très entraînante. Elle a été à l'origine présentée sur l'album Wovoka. Plus tard, la chanson est également apparue sur de nombreuses compilations des années 1970. En avril 1974, la chanson atteignit le numéro 5 du palmarès Billboard Hot 100, qui est le classement hebdomadaire, des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis. Elle a d'ailleurs obtenu un Golden Record et fit plus d'un demi-million d'exemplaires vendus aux États-Unis. Cette musique apparaît aussi dans des films tels que Dance Me Outside de 1994, Dick, Les coulisses de la présidence de 1999, ou plus récemment, et c'est ici où j'ai réellement connu la chanson, dans le film Les gardiens de la galaxie, sorti en 2014, où le personnage principal Star-Lord, incarné par Chris Pratt, danse sur cette chanson alors qu'il explore une ruine avec son Walkman. La musique est également utilisée comme introduction à la série Netflix F is for Family. Peut-être avez-vous déjà entendu cette musique dans une pub, car le titre est employé en 2018 dans une campagne publicitaire de Noël, Bouygues Télécom, et la vidéo totalisait plus de 2,99 millions de vues sur YouTube. J'ai trouvé l'essentiel de mes informations sur Wikipédia. Voilà donc pourquoi cette musique est si connue. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment découvert cette chanson avec le film Les Gardiens de la Galaxie, même si je la connaissais déjà un peu avant. Je l'ai encore écoutée récemment, elle ne me lasse pas. J'ai aussi des amis qui aiment cette musique, et je pense pas que nous soyons les seuls. Comme quoi, il y a encore des ados qui écoutent des musiques des années 70.
En effet, Clément. Merci pour ces éclairages sur ce morceau. Donc, est-ce qu'il correspond à tes goûts musicaux en général, ou est-ce que c'est un morceau que tu as rencontré par hasard ?
Bah, c'est un peu des deux. En fait, je l'ai rencontré par hasard en regardant le film, et j'ai tout de suite accroché, et puis mes goûts musicaux, ils sont tellement élargis que je peux écouter de tout.
Donc, tu écoutes de tout.
Oui.
Et en ce moment, qu'est-ce que tu écoutes ?
En ce moment, c'est plus un peu de rap.
D'accord, très bien. Par exemple, quel titre ou quel groupe ?
En ce moment, je saurais pas dire. C'était.
Tu es plus dans une période de rap, en fait.
Ouais, un peu plus, en ce moment.
D'accord. Et vous, les filles, vous écoutez quoi ?
Bah, un peu pareil, du rap. Après, comment on dit ? Je sais plus le titre.
Ça reviendra. Irine, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ?
Du rap aussi.
Tout le monde écoute du rap, c'est formidable. C'est nouveau parce que Clément, tu t'as l'air de dire que c'est depuis peu. Donc, est-ce que c'est un truc de lycéen de seconde que d'écouter du rap ?
Ouais, je sais pas. C'est souvent, là, beaucoup de personnes écoutent du rap, donc je me mets aussi à en écouter. Puis, j'aime bien.
D'accord. Ok. Très bien. Merci Clément pour ces éclairages. Et nous allons d'un temps donner la parole à Emeline. On va rester aux États-Unis, mais on va parler d'un autre sujet tout aussi distrayant, qui est l'état de santé du président américain.
Le Covid-19 touche tout le monde, dans tous les pays. Nous pouvons le constater également dans notre région, la Sarthe. Le pays qui a été le plus touché est les États-Unis, où nous pouvons constater plus de 200 000 décès liés au coronavirus. Aux dernières informations, nous venons de voir que le président américain, M. Donald Trump, a été testé positif au coronavirus. Cette annonce a été annoncée dans la nuit de jeudi à vendredi sur Twitter. Il a été hospitalisé pour quelques jours dans un hôpital de la banlieue de Washington. Selon les dernières informations, l'état de santé de Donald Trump s'améliore. Les élections américaines ont lieu le 3 novembre 2020. Que faire si Donald Trump n'est plus en capacité d'être le représentant des Républicains pour la prochaine élection présidentielle ? Beaucoup de personnes se posent la question, car en cas de maladie ou de décès, la Constitution a été planifiée concernant le transfert de pouvoir vers Mike Pence, son vice-président. En revanche, concernant les élections présidentielles du 3 novembre, les choses pourraient vite devenir chaotiques La solution la plus simple serait de repousser le scrutin. Cependant, cela ne semble pas être sur la table pour le moment, malgré l'hospitalisation de Donald Trump. De quoi plonger encore un peu plus le pays dans l'incertitude, si jamais le président ne guérissait pas rapidement.
Merci Emeline. Alors qu'est-ce qui t'a interpellée dans ce sujet pour que tu en parles aujourd'hui ?
Bah en fait, je trouve ça un peu grave quand même, mais assez drôle parce que Donald Trump, en fait, c'était lui qui disait « Infligez-vous de la javel dans le corps, tout ça pour guérir ». Du coup, enfin, je trouve ça un peu drôle que maintenant c'est lui qui est le coronavirus.
Oui, en effet, il y a quelque chose, une petite ironie du sort, d'une certaine façon. C'est le président qui ne voulait pas non plus confiner au début, tout à fait. Merci Emeline, pardon. Nous allons donner la parole maintenant à Erin, mais voilà, qui va clôturer l'émission aujourd'hui avec un sujet sur un fait divers tragique et beaucoup moins drôle qui s'est passé il y a quelques jours.
Le corps sans vie de Victorine d'Artois, une jeune femme de 18 ans, disparue depuis deux jours, a été découverte lundi 28 septembre, immergée dans un ruisseau à Villefontaine en Isère. Il est trop tôt pour dire à quand remonte sa mort, a déclaré le procureur de la République de Vienne, Audrey Pied, lors d'une conférence de presse tenue dans un gymnase de cette ville située à une quarantaine de kilomètres de Lyon. Un premier examen externe du corps par un médecin légiste n'a pas permis d'identifier les causes du décès, ni à quand remonte précisément la mort, a précisé la magistrate, qui a annoncé qu'une autopsie serait menée dans les prochains jours. Le corps a été recouvert dans une zone boisée, difficile d'accès, non loin d'un stade où la jeune fille aurait passé son dernier appel téléphonique à 19h samedi. La famille de la victime avait donné l'alerte dès 21h30 et bien que Victorine soit majeure, son absence avait été immédiatement prise au sérieux.
Merci Irine. Alors pourquoi as-tu choisi ce sujet ? Parce que c'est pas spécialement...
Parce que quand même, découvrir sa fille morte alors qu'elle rentrait tout juste chez elle parce qu'elle avait raté son bus... C'est quand même vraiment choquant.
Oui, t'as trouvé ça triste et terriblement violent, finalement.
Oui, c'est pour donner une alerte aux jeunes de pas non plus sortir tard et rentrer tout seul dans une ville, même dans des petits chemins.
D'accord, donc c'est déjà un message de prévention, d'une certaine façon, et puis peut-être un hommage aussi que tu veux rendre à cette famille.
Oui.
Tu partages leur souffrance un petit peu.
Oui.
Je comprends tout à fait. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous vous sentez pareil en insécurité autour de... Est-ce que ça vous arrive de rentrer seul le soir ?
Oui.
Oui ?
Oui.
Et donc, ça vous inquiète, ce genre d'événement ?
Un petit peu, parce qu'on voit que, de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui disparaissent, enfin, qui meurent comme ça. Mmh. Et oui, ça fait peur.
Oui, ça peut nous arriver de rentrer soir tout seul. Puis, c'est des histoires comme ça qui nous rendent compte que on n'est jamais à l'abri, en fait.
Tout à fait. Merci donc pour ces interventions. Voilà, seconde actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous remercions Gabriel à la technique, ainsi que toute l'équipe de Fréquence Sillée, 97.9 FM. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site internet de Fréquence Sillée, fréquencesillée.org. À la semaine prochaine.